Mesdames et messieurs, bienvenue à cette troisième session qui va nous parler un petit peu des joies que rencontre un intégrateur lorsqu'il est confronté à des chartes graphiques et en l'occurrence des chartes graphiques qui ont été fournies sous forme de papier. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter messieurs Renaud Comte, Laurent Caramigéas et surtout monsieur Jean-François Plateau de l'État de Neuchâtel. À vous, les amis.
Allô, allô? Ah, 1, 2, 3, ça y est. Donc, peux-tu faire la bascule de vidéo, s'il te plaît? Ah, ouais. Hop, F5. Bien, bonjour. Alors, session un peu originale. D'habitude, je parle souvent de technologie, souvent de SharePoint, exclusivement de SharePoint et tout le temps de SharePoint. Pour une fois, plutôt que vous parler de technologie pour technologie, on va vous faire un vrai retour d'expérience. Sur stage, vous avez moi-même, architecte technique et responsable technique SharePoint de Wigwam, Laurent Carmigéas, mon développeur confirmé sur le projet, et Monsieur Plateau, que je vais laisser se présenter, je pense que c'est plus simple.
Oui, voilà. Plateau Jean-François, du service informatique de l'entité neuchâteloise. L'entité neuchâteloise, avec son service informatique, propose notamment plusieurs prestations informatiques au service de l'État, mais également à diverses communes et également à des partenaires para-étatiques et également à d'autres cantons. Canton du Jura, pour notamment les applications de police, canton de Berne, canton du Jura et canton de Neuchâtel pour tous le domaine HEP, qu'on appelle HEP Béjune. À toi, Renaud.
Nous, pour être pour la partie un peu marketing, la société Wigwam, c'est 40 collaborateurs à votre service. Nous sommes une équipe bureau d'expertise et locale à Genève. L'aventure est née de la frontière belge et elle s'est expatriée depuis 2 ans sur la Suisse. Nous travaillons sur trois domaines, le conseil, l'expertise, le développement et depuis quelque temps, la formation, où à force qu'on fasse des missions de coaching, qu'on assiste les équipes, on commence à créer nos propres pédagogies, nos propres classeurs de formation. On travaille exclusivement, même majoritairement, pour les technologies Microsoft, et ce depuis 8 ans, dès les premières bêtas, que ce soit aussi bien sur le portail, l'applicatif, la mobilité et le nuage, ou le cloud si tu préfères donc. Alors, l'agenda de cette session. Première question, qui connaît bien SharePoint dans la salle? Levez la main, moi j'ai pas honte. Qui a déjà fait des projets en publishing? Traduction, site internet, site vitrine et autres. Qui trouve ça génial? Bon, Laurent, merci, je me sens moins seul. Alors, le grand de la session sera le partie 2 et 3. Première partie, je vais aller assez vite. Vous pouvez télécharger les slides par la suite. J'ai essayé de faire une petite overview, un petit panorama de qu'est-ce que le publishing pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Alors, le publishing, sous-entendu l'ADN du site internet. Il y a 4 points à noter en publishing. On ne va pas faire de l'intranet, on ne va pas parler de collaboratif, on ne va pas parler de gestion documentaire. Le principe du publishing, c'est de pouvoir, 1, offrir un moyen de créer, de composer du contenu à vos utilisateurs, sans forcément qu'ils soient formés. Je ne parle pas d'avoir des webmasters, je parle vraiment des utilisateurs. Deuxièmement, garantir une charte graphique à l'ensemble de votre contenu. On n'est pas là pour parler intranet, on parle d'une image, on veut donner une ligne de conduite graphique, il faut l'imposer. Troisième point, pouvoir contrôler en permanence que tout contenu suit une charte, suit les efforts d'un plan de communication. Et dernier point, garantir une plateforme unique de façon que les considérations graphiques de lignes de conduite puissent être utilisées, réutilisées aussi bien dans les portails divisionnels ou intranet. Publishing n'est pas réservé qu'à Internet, ça vient d'Internet. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser au mieux dans tous vos besoins. Alors, techniquement parlant, quand on fait du publishing, on va travailler avec 4 objets. 4 objets incontournables. La master page, c'est la page, le calque principal qui va contenir tout ce qui fait vivre le site en termes de navigation, de logo, de login, d'édition, de CSS. C'est le calque principal, comme sous Photoshop. Deuxième chose, les gabarits, layout. Le gabarit définit la mise en page. Sous-entendu, le calque principal vous donnera la couleur. Le gabarit vous donnera la mise en place. On va définir où on peut mettre des composants, où on met du texte ou autre. N'hésitez pas, vous pouvez avoir plusieurs gabarits par type de contenu. Je vous donne un exemple simple. Un site internet a un accueil principal, a des sous-accueils. C'est le même type de contenu, mais ce n'est pas les mêmes mises en page. Les webparts. Comment parler de SharePoint sans parler de webparts? Depuis 2001, les webparts font partie de notre écosystème. C'est le principe des microcontrôles. Vous pouvez avoir des pièces de puzzle applicatives que vous pouvez utiliser un peu partout dans votre site en fonction des positions du layout. Dernier outil, les field control. Typiquement, là où vous allez saisir du texte, vous pouvez lier des champs de saisie, de formulaires, directement à la gestion de l'affichage dans vos gabarits. Ça vous permet de mettre des contraintes. Typiquement, vous pouvez avoir en édition simplement un champ de texte où vous pouvez avoir une date avec un calendrier ou mettre des mots-clés qui, en lecture, va se transformer tout simplement en diaporama de photo. L'idée, c'est de contraindre l'auteur à saisir des champs qui vont l'aider, mais en même temps pouvoir réaliser le rendu sans devoir l'embêter à faire de l'HTML. Voici le principe du publishing. Maintenant, d'ailleurs, je n'ai pas demandé, qui utilise SharePoint 2010? Ah, quand même. Et 2007? Oh, il y a de la migration. Si vous connaissez SharePoint 2007, connaissez-vous les nouveautés de SharePoint 2010 en publishing? Alors, je vais aller très vite. Je vous dis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Là, je veux juste faire un overview. Donc, première grande amélioration directement au niveau des bases de SharePoint, au niveau de SharePoint Foundation. Vous avez enfin une sortie HTML propre. Fini les tableaux, fini les compositions un peu old school, pour être très poli, ou très vintage. On n'est pas dans Front Page 98. Là, on est vraiment dans une norme XHTML, WCAG 2.0. Là, les sites SharePoint sont certifiés 2A par défaut. C'est sous-entendu, quand vous le customisez, si le site n'est pas accessible, c'est de la faute de l'intégrateur.
Oui, tout à fait.
Bon, il est accessible, donc on s'en sort bien. Le JS est optimisé, plus de problèmes de poids. Si vous regardez, vous avez les fichiers debug, les fichiers compilés. Bref, tout est fait pour être léger. Au niveau de l'authoring, désormais, vous pouvez éditer dans SharePoint 2010, au niveau publishing, avec un éditeur Word-like, qui n'est rien que plus qu'une version web de Word. Si vos utilisateurs savent utiliser Office 2007, rien ne les piégera pour utiliser SharePoint 2010. Pareil, le ruban a été incorporé de plein de nouveaux outils pour faciliter la publication, que ce soit les outils de workflow, les workflows visuels, les tags, le système d'auto-tagging et les systèmes de commentaires sociaux. Bref, vous pouvez utiliser la boîte à outils complète. Pour mes amis développeurs, la Content Query WebArt, certainement le composant le plus incontournable de la technologie SharePoint, la WebArt qui agrège tout et n'importe quoi sous n'importe quelle façon, elle a été largement améliorée, tout simplement en tenant compte de tous les feedbacks du terrain. Désormais, vous pouvez utiliser des filtres dynamiques sur de la query string, sur des modules de la page. Vous pouvez réutiliser une feuille de style, quels que soient les content types, en utilisant des mots-clés. Vous pouvez intégrer les notions de ratings et de metadata. Et mieux que tout, elle a été optimisée. Traduction, derrière, les requêtes qu'elles sont faites sont montées en charge de façon à être beaucoup plus rapide. Ce qui, dans le cas du OSM, est obligatoire. Content management, largement revu à la hausse aussi. Désormais, on édite dans la page en direct avec tous ces choix de gabarits paramétrés. On peut créer des routes de publication, des systèmes d'organisation. Bref, que du bonheur. Au niveau du média, maintenant, SharePoint 2010, c'est géré du média. Ce n'est pas encore un moteur de streaming complet. Vous avez des solutions pour le faire. Mais au moins, tout ce qui est en termes d'interface est quand même beaucoup plus Web 2, Web 3 que simplement du stockage. Merci aussi Silverlight. Vous pouvez avoir votre propre thème de player. Plutôt qu'avoir le système Flash un peu gris à la Google, vous avez moyen de customiser vous-même ce player. Les analytics, très important quand on veut analyser le fonctionnement de son site. Bref, ça devient vraiment riche. Pour mieux vous parler de retour d'expérience, on va déjà juste vous montrer le site une fois, pour dire de quoi on parle, parce que nous, on le connaît bien. Donc, est-ce que vous voyez tout de suite un site SharePoint? Pas vraiment. On reconnaît un peu le ruban, je vous rassure, il va disparaître. Mais pour mieux comprendre comment on est venu à ce résultat, je vais laisser M. Plateau vous introduire le projet tel que nous, on l'a vécu. M. Plateau.
Merci, Renaud. Voilà. Donc, en concurrence avec deux autres solutions, le service informatique de l'entité neuchâteloise a été mandaté notamment par une commune dont on taira le nom pour des raisons tout simplement que le site n'étant pas public, il n'a pas voulu être exposé encore aux médias, je dirais. Donc, Nous avons dû, dans la réalisation de ce projet, respecter un certain nombre de contraintes. Et notamment, dans notre mandat, nous avions à apporter la réalisation. Donc, nous ne pouvions pas et nous n'avions pas les connaissances du produit. Donc, on a dû s'appuyer, bien sûr, sur un partenaire. Et notamment, nous devions conduire également l'accompagnement au changement côté utilisateur et bien évidemment conduire le projet tant en termes de respect des objectifs, en termes de respect des fonctionnalités attendues, mais également en termes de respect des contraintes. Et comme vous pouvez voir, en termes de contraintes, le budget étant souvent le nerf de la guerre, eh bien, on voit que le budget était relativement faible en termes de services. Il y a d'autres contraintes qui étaient notamment l'accessibilité, etc., qui sont non pas des contraintes par la commune, donc des contraintes utilisateurs, mais vraiment des contraintes vis-à-vis de la Confédération qui demande à ce qu'un site administratif réponde à un certain nombre de critères. Le déroulement du projet a mis en évidence, parce qu'on est quasiment à la fin, on est dans les deux derniers steps, a mis en évidence deux éléments. Le premier, c'est qu'il a fallu 18 mois pour trouver un consensus sur l'aspect graphique. Et pour pouvoir le trouver, pour pouvoir valider cet aspect graphique, qu'est-ce qu'on a été obligé de faire ? Tout simplement une maquette HTML, et là, on s'est appuyé sur la société Wigwam pour traduire en mode HTML les différentes images qui nous avaient été soumises. Par contre, seulement 3 mois ont été nécessaires pour faire l'analyse fonctionnelle que nous avons fait et pour permettre à Wigwam de réaliser une solution avec 2 livrables. Le premier livrable qui en réalité était soumis à la critique d'un pool d'utilisateurs avertis et un deuxième livrable qui était la version à mettre en production qui comportait bien sûr les corrections et les modifications attendues. En termes d'organisation, le canton de Neuchâtel, vu sa taille et notamment ses communes qui sont relativement restreintes, il a fallu et il faut toujours organiser nos projets en conséquence. Nous voyons typiquement le type d'organisation qui est tout à fait classique, mais en termes de ressources, on voit que c'est relativement faible. En termes de démarche, la démarche est une démarche pragmatique. Pourquoi ? Parce que par rapport à ces ressources, par rapport à notre budget, on a plutôt privilégié une démarche qui s'est appuyé sur notre expérience pour le choix du produit, le choix du partenaire et également le mode et la conduite de projet à mettre en regard. En termes d'appréciation du projet, donc retour positif, le premier retour que l'on peut mettre en évidence, c'est que le périmètre du projet était un formidable laboratoire pour notamment conduire ce type de projet et le faire nos premiers pas avec SharePoint 2010 WCM. Le deuxième point, c'est la qualité des prestations de notre partenaire nous a permis de délivrer une solution de qualité professionnelle. Cette solution nous a permis, par la richesse notamment de ses fonctionnalités, de mettre en évidence le produit SharePoint 2010, mais également d'exciter les utilisateurs, d'être, malgré la richesse de fonctionnalités, malgré toutes les technologies mises en route, l'utilisateur trouve que le produit est très très simple à utiliser, très très simple pour publier, et notamment très intuitif. Et ça, c'est un élément très très fort qui ressort dans l'appréciation du produit. Et là, c'est non pas le chef de projet qui vous parle, mais c'est véritablement les utilisateurs finaux. Et bien sûr, je ne saurais que dire que SharePoint 2010 WCM, sinon je me ferais harakiri, a été le bon choix. Mais non seulement vis-à-vis de l'utilisateur final, mais également vis-à-vis des instances dirigeantes de la commune et de l'État. C'est-à-dire que nous allons refaire notre Internet, là qui est énorme, et là nous allons utiliser ces technologies assurément. Nous utilisons également SharePoint 2010 dans le cadre d'un maquettage pour tout le domaine pédagogique. Par contre, à chaque pièce un revers de médaille, quelque part. Et là, nous avons eu une réflexion avec le client et très rapidement, nous avons pu mettre en évidence, je dirais, trois axes d'amélioration. Le premier axe est l'accompagnement, c'est-à-dire très rapidement, il faut trouver le bon interlocuteur qui va pouvoir accompagner le client, un accompagnant ou un assistant qui va justement maîtriser complètement toutes les technologies de communication, notamment de communication web, on va dire, et ceci pour, un, accompagner le client dans ses réflexions, mais également dans ses décisions. Et de laisser un client tout seul comme ça, ce n'est pas toujours évident, et notamment de pouvoir améliorer, et ça c'est un élément important, d'améliorer la communication entre le client, l'agence graphique et l'IT. C'est quand même trois domaines très différents. Et là, pour obtenir, on va dire, une bonne solution, il faut avoir un communicateur.
Voire même un négociateur.
Merci, Renaud. Exact. Le deuxième axe, d'amélioration, eh bien, c'est le choix de la société graphique. Renaud l'a dit en introduction, nous étions pas là au début. Donc, le service informatique de l'entité neuchâteloise, à qui on a donné le mandat, en réalité, n'a pas participé au choix de la société, de l'agence graphique. Et ça nous a conduit à pas mal d'inepties. C'est-à-dire que cette société a fourni quoi ? Juste du papier. Et elle s'est fait tirer l'oreille pour nous fournir un guideline. À l'heure actuelle, vu la maturité des besoins, client, vu la maturité des technologies et vu la maturité des fonctionnalités à disposition dans ce type d'outils, c'est pas seulement pour Chapointe, mais j'imagine pour des tas d'autres, eh bien, il est évident qu'une société graphique doit fournir des objets qui sont directement intégrables, donc c'est des objets qui vont décrire le graphisme et le comportement, qui sont directement intégrables dans la technologie qui a été mise en œuvre. Et qui aime bien, châtie bien. Il y a quand même le dernier point, enfin le dernier axe d'amélioration concerne Microsoft. En effet, la partie mobile de SharePoint 2010 WCM, son interface, en réalité, on a découvert quelque chose qui nous a un peu sidéré, c'est que son interface n'a pas été conçue comme l'a été l'interface standard. C'est-à-dire la personnalisation de cette interface n'est pas en adéquation avec un site web tel qu'on l'entend, c'est-à-dire de publishing. Pourquoi ? Parce que dans du publishing, vous allez faire quoi ? Vous allez publier des pages, vous allez mettre du texte dans ces pages, vous allez surtout mettre quelques images, etc. Or, la partie mobile, eh bien, ne permet pas de visualiser le texte, ne permettra pas de visualiser les images directement, etc. Et l'adaptation est quasiment, on va dire, impossible dans l'interface standard. Il va falloir utiliser d'autres technologies, peut-être bien lourdes, pour pouvoir personnaliser cette partie mobile. Gageons toutefois que Microsoft saura capitaliser sur le retour d'expérience de ses clients et notamment fournir quand même dans un bref délai ou dans une version ultérieure, je dirais, une partie mobile digne de ce nom, car n'oublions pas que nos métiers nous demandent de plus en plus de mobilité, exigent tant dans la partie publique, enfin métier que privé, justement, d'utiliser nos petits smartphones ou autres outils pour justement accéder à un site et ne pas avoir la panoplie d'images, etc. Merci de votre attention. Je repasse la parole à Renaud.
Merci. Allô ? Ben, merci. Toujours gênant quand on a des compliments, mais bon, on va faire avec. Pour la partie mobile, effectivement, SharePoint possède une suite mobile. Elle a été designée, utilisée et une API plutôt pour la partie collaboration-application. C'est clair qu'elle n'a pas été du tout pensée. Elle peut être adaptée pour faire du publishing. Le moyen qu'on est en train de retenir pour faire la version mobile du site, et je parle mobile non pas smartphone, mais mobile plus dans le sens web, c'est-à-dire plus ouvert au monde, surtout le signe client, le client le plus léger pour le téléchargement, ça va être utiliser encore le système de variation pour pouvoir recréer des gabarits, des mises en page, des layouts. Donc on va recloner le site dans une vision beaucoup plus légère en ne gardant que le texte. Donc oui, c'est possible, mais le client mobile n'est pas l'alternative. Sachant qu'on a aussi une autre alternative, c'est que le site doit rester tel qu'il est. Parce qu'actuellement, tous les utilisateurs de tablettes, de téléphones smart et autres ont tendance à vouloir explorer le vrai site Internet plutôt qu'avoir une version trop réduite. faut arriver à concilier un peu tout. Nous, on est dans le cas d'une problématique très publique. On ne doit négliger personne. Il n'y a pas de second client. On va rentrer maintenant dans le dur du projet. Très difficile de faire un feedback projet parce qu'on aimerait pouvoir tout couvrir. Le projet n'a pas été immense, mais il a été complet. Et c'est toujours difficile, en une demi-heure, trois quarts d'heure, de pouvoir tout résumer. Donc on a fait des choix de mettre en avant trois axes, qui ont les axes les plus majeurs. Alors, je vois sûr, il y a aussi des points positifs et négatifs, on les a évoqués. Première chose, tout ce qui est charting graphique. Comment customiser graphiquement un site. Deuxième point, le multilingue. Comment gérer des sites multilingues sous SharePoint 2010. Troisième point, bien toute l'architecture technique. On va essayer de couvrir tous les outils, les trucs et astuces, LinQ, les SEO, tout ce que nous, on a dû respecter pour arriver à le délivrer. Donc, on va vous faire du vrai feedback. C'est-à-dire, sous-entendu, qu'est-ce qu'on a utilisé pour réaliser le projet en un temps imparti. On va commencer. Première chose, la charte graphique. Qui ici conçoit qu'il est facile de customiser graphiquement un site SharePoint ? Hein ? Hein ? Monsieur Plateau, s'il vous plaît. Oui, deux, merci. Alors, effectivement, le vieux dragon des mers. Customiser un site graphique sous SharePoint, ce n'est pas réellement compliqué. Je dis ça parce que j'y arrive et aussi parce que je travaille avec une démarche. Vous ne pouvez pas prendre une image, une charte lambda et dire « je veux ça dans SharePoint ». Enfin, vous pouvez le dire. De là à l'obtenir, certains ont mis 18 mois.
Oui, je confirme.
Et 18 mois, on n'avait pas le résultat. J'ai d'autres clients qui m'ont même appelé au secours parce que des fois, il y avait un comité de direction qui attendait de voir quelque chose. Il faut mettre en place une démarche. Il est rare de dire « développeur, faites ». C'est trop facile, ça ne marche pas comme ça. En termes de démarche chez Wigwam, on a une approche qui est à peu près proche des web agencies. J'ai souvent travaillé pour des marques de cosmétiques, donc j'ai découvert ce milieu-là. Première chose, quand vous parlez d'une charte graphique, il faut que vous définissiez un rendu. Vous ne pouvez pas passer à côté. Je le dis souvent, en publishing, on traite par l'image. On ne traite pas par les specs techniques. Si vous voulez un technicien, faites du technique. Vous voulez du publishing, vous voulez de la vitrine, travaillez en image. Vous définissez le poids, la chaleur, la ligne éditoriale, la mise en page, quel est le sentiment que vous avez. Vous devez avoir des collectifs d'utilisateurs qui vont vous faire du retour. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous reconnaissez l'image de l'entreprise? Quelle ergonomie vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de flashy, quelque chose de sobre? Est-ce que vous voulez être corporate ou pas? Toutes ces questions, un développeur ne vous y répondra jamais. Regardez comment sont habillés des développeurs. On est blanc en noir. Si vous voulez un site coloré, ne demandez pas à nous. Travaillez avec des designers. Personnellement, j'ai fait recruter chez WEM depuis 3-4 ans trois designers ergonomes qui travaillent à plein temps pour nous, pour pouvoir faire de la charte graphique, des propositions, des revues et de l'intégration HTML. Une fois que vous avez réussi à définir un rendu, vous devez passer à une correspondance. Là, c'est plus ce travail de l'architecte de contenu. L'idée, c'est de pouvoir découper un site SharePoint, de retrouver tous ces petits outils pour dire, voilà, qu'est-ce que je peux utiliser de la boîte à outils SharePoint pour pouvoir composer le site tel que demandé. Comment arriver à obtenir le rendu via les outils à SharePoint. Je parle vraiment fil de fer. C'est une phase de négociation. Quel composant peut être utilisé? Qu'est-ce que je peux faire? Et l'objectif, c'est de limiter le développement. Comment je peux utiliser la boîte à outils SharePoint en correspondance? Une fois que cette correspondance est faite, on va passer une phase maquettage. Soit maquette HTML si le site le demande en complexité, ou réaliser déjà les premiers pagemètres SharePoint à 80% capables d'être mis en prod. Pourquoi? L'erreur, c'est de croire qu'une image va vous donner le même sentiment qu'une page web. Vous avez des barres d'outils, vous avez des problématiques de JavaScript et plein de choses. Il faut pouvoir en tenir compte. La maquette vous permet de l'expérimenter et de le tester. Vous ne pouvez pas vous engager sur une image. Ce n'est pas ce que les utilisateurs vont voir. Vous allez voir un navigateur. Donc, il faut tenir compte de ces contraintes-là et donc de tester avec une maquette. Et c'est là qu'on va négocier les contraintes. Dans le cas du projet, je peux vous dire que les contraintes étaient réelles. Nous avons droit qu'à 100% de respect de l'image. Les alignements pixels devaient être respectés, quelle que soit la problématique à gérer. Une fois que vous avez défini la correspondance et une maquette qui a été validée, on peut passer au lotissement. Mais, on doit passer à la notion de structuration. Vous devez réaliser un storyboard complet. Vous avez vu au cinéma, chaque scène doit être imagée, storyboardée, de version macro et micro. Macro dans le sens qu'on va définir toute la structure du site, comment vous allez vous naviguer, par quoi vous allez passer, est-ce qu'il y a une zone de relations humaines, une zone marketing, est-ce qu'il y a une zone d'agenda, est-ce qu'il y a plusieurs agendas, est-ce que les agendas sont similaires. Vous pouvez vous poser la problématique du structure. Et d'un point de vue micro, chaque élément de la structure doit être défini en disant, OK, quel modèle je vais utiliser, quelle mise en page, est-ce que je veux utiliser, je veux des images, je veux de la vidéo. Tout ce storyboard va être le vrai cahier des charges au final. Dites-vous que vous allez travailler avec des développeurs derrière, qui eux n'ont pas de sensibilité graphique, ni voire de sensibilité de navigation. L'idée du storyboard, c'est que vous avez un moyen de converser efficacement avec des gens par l'image. Vous dites, voici tel impact, j'ai besoin de telle information, les architectes, les développeurs sauront le traduire efficacement. Une fois que vous avez ce storyboard, et vous ne commencez jamais un projet sans storyboard, vous pouvez passer au lotissement. Traduction, on va pouvoir factoriser tous les développements, les mises en page, les systèmes SharePoint et travailler par profil. Alors pourquoi je parle de profil ? Au niveau du charting SharePoint, il est très important de savoir travailler avec des profils métiers. Typiquement, si on parle de charting, on doit parler de designer. J'ai 3 designers, j'en ai même eu 5 à un moment avec d'autres partenaires. Ce sont des artistes dans l'âme. Par contre, pour eux, SharePoint n'est pas plus différent qu'un autre produit CMS, que ce soit OpenCMS, Vignette, d'autres. Ce sont des produits de rendering. C'est juste plus large. Pourquoi ? Parce que vous devez déjà mieux connaître cet outil-là, tout simplement mieux l'exploiter. Il faut connaître toutes les règles Internet qui ne sont pas SharePoint. Le SEO pour l'indexation, le WI pour l'accessibilité, le W3C pour la propreté d'HTML. Ce sont des contraintes qu'il faut connaître. Et maîtriser surtout. Et derrière, d'avoir tout le tooling et toutes les machines pour travailler sur SharePoint. Vous ne pouvez pas prendre un designer dans la rue et lui dire de le faire. Par rapport aux contraintes du projet, bien, ces éléments, on l'a vu. Les règles d'accessibilité qu'on devait respecter ne sont pas SharePoint, elles sont fédérales et même internationales. Le fort respect de la charte graphique, ben, comme on discutait avec M. Plateau, on nous a sorti une impression papier, en papier glacé. On veut ça dans le navigateur. Pour vous donner une idée des étapes de validation, M. Plateau et ses clients imprimaient les pages du système Internet et derrière le scannaient ou le remettaient sous Photoshop pour vérifier les alignements. Quand je vous dis que le site était mesuré au pixel, c'est une réalité. Il n'y fallait pas plus que 2 pixels d'écart entre chaque composant. Et
Oui, j'avais un spécialiste pour ça.
J'ai jamais vu autant de fichiers Photoshop dans un projet. Et derrière, de travailler en collaboration avec le développeur. Techniquement parlant, première chose, au niveau de l'accessibilité, respecter l'XHTML et le niveau 2A de SharePoint. Je vous le dis, il nous a fallu intégrer au même niveau que SharePoint. Ni moins, on a pu plus, mais ce n'était pas l'objectif. Petit souci, est-ce que vous savez ce qu'est un site accessible ? C'est un site qui, pour une personne qui a une déficience visuelle, de pouvoir quand même profiter de la lecture. Donc typiquement, il vous faut des polices dynamiques. Une police dynamique se doit d'être sizée en EM et pas en PTPX. Donc Arial taille 10, non. Vous savez, en EM. Problématique, l'EM est une police dynamique. Donc vous devez utiliser des tables de correspondance qui va vous préciser pour chaque mise en pour chaque taille ses équivalences EM. Pourquoi ? Bah, tout simplement, si vous voulez une charte graphique extrêmement précise et très graphique, vous devez aligner. Si vous devez aligner, vous devez avoir des correspondances. Petit souci, les textes EM sont beaucoup plus petits que les positionnements PX. Donc on a dû recalculer des matrices de conversion pour pouvoir, dans notre charte graphique, avoir une taille de police qui soit toujours similaire à la mise en page. Petite question, que se passe-t-il quand vous êtes sur un site internet et que vous augmentez la taille de vos polices ? Vous savez, taille du texte, larger. Le texte se multiplie par 3 ou 4 en hauteur. D'après vous, comment réagit le site ? Il explose. Faites l'essai sur votre intranet, faites l'essai sur Internet. Augmenter la taille de police par défaut, c'est ce que font des gens qui ont des glaucomes ou qui ont des problèmes de visibilité. Ils augmentent la taille des polices. Si vous travaillez avec des outils comme JAWS, vous verrez, avec le double CAG, vous augmentez la taille de police de 200 à 300%. Si tout votre site est fait en pixels avec des carrés bien sizés, si la police triple de taille, vos tableaux explosent ou tout simplement vous retournez à la page. Donc votre site s'effondre graphiquement. La seule façon d'avoir un site qui, un, puisse être dynamique en termes de lecture et respecte une mise en page branding doit être entièrement taillé en EM. Vous n'entendrez pas ça tous les jours. Laurent, tu peux nous décorer le principe ?
Oui, pas de souci. En fait, on va se baser sur le site en question. D'abord, je vais vous présenter la charte non graphique. Pour débuter sur le projet, on a travaillé d'abord sur une charte qui était non graphique pour organiser un petit peu les éléments dans la page. Et on va voir tout de suite le résultat. Pour ça, je vais juste augmenter la taille et voilà le résultat. Finalement, on voit aucune différence.
Petite remarque, on n'a pas zoomé, hein. On est toujours en 100%. On n'est pas dans le zoom du site. On est vraiment dans l'augmentation des polices.
Maintenant, je vais me positionner sur le site. Je suis sur le site qui est déployé sur ma machine. Je fais la même étape. J'agrandis. Et là, on a tous les éléments de la page, ainsi que le texte, qui sont formalisés et formatés de la bonne façon, sans que le site explose.
Je vous dis, le problème de l'accessibilité, c'est pas de considérer les utilisateurs qui ont une faiblesse visuelle comme des citoyens de seconde zone. Ils doivent augmenter la taille de police pour lire. Pourquoi faut-il qu'ils aient un site qui soit complètement petit ou tout simplement décalé ? C'est pas parce qu'on a des problèmes de vue qu'on doit forcément être moins bien servi. Moi, je porte des lunettes, je sais ce qui va m'arriver à un moment. Donc, au niveau du CSS, même problématique. On doit, enfin, au niveau du corps HTML, tout est orienté CSS. Du flow, zéro positionnement, et aussi les menus en ULLI. Petite remarque que nous, on a dû gérer au fur et à mesure du site. Tout doit partir d'une mode Minimal Master. Nous, on vous conseille de travailler soit avec Minimal Master Microsoft, mais il y en a des versions encore plus épurées si vous avez besoin de graphiques très, très, très précis. Nous, on travaille avec ça. Le styling du ruban, attention, sachez que le ruban n'est pas une problématique du publishing parce que souvent, on le cache. Tout simplement, les lecteurs n'ont pas à voir le ruban, seuls les auteurs n'en ont besoin, donc on l'a géré. Mais on peut tout à fait le rendre un peu plus graphique. Le seul problème sont les en-têtes de WebArt, ce sont les seuls tableaux qu'on peut avoir parce que le framework WebArt insère un tableau de gestion. On croise toujours les doigts pour l'enlever un de ces jours, mais l'avantage, c'est qu'il ne vous empêche pas la certification 2A. La 3 sera plus compliquée à cause de ça. Mais on a encore des solutions techniques. On a beaucoup utilisé jQuery. Pourquoi ? Tout simplement pour réécrire des contrôles de sortie SharePoint. On avait certains menus qu'on voulait réutiliser. Comme ils avaient un formatage qui n'était pas assez graphique, on s'est servi de jQuery pour réécrire leur sortie. Comme ça, ça nous a évité de réécrire les contrôles et de revalider le système. On a simplement revampé leur affichage. Dernier petit conseil, et limite c'est avec ça que vous pouvez savoir si les gens connaissent vraiment le publishing. Sachez qu'une page maître SharePoint ne fonctionne pas dans le moteur de recherche. Les écrans de recherche, on utilise des classes bien précises qui ne sont pas les mêmes que les pages maîtres. L'idée, c'est que vous devez créer une page maître qui est capable de gérer les deux affichages ou de faire un affichage spécial recherche. Si jamais vous ne tenez pas compte du moteur de recherche dans votre charting graphique, sachez que de toute façon, vous avez un utilisateur sur cinq qui va chercher. Donc pensez à lui, testez la charte graphique du moteur de recherche. C'est quand même dommage que ça ne ressemble pas au site. Maintenant, au niveau du développeur. Je disais, on parlait du designer. Maintenant, il faut aussi parler du développeur. Ah, limite, les slides vont parler d'eux-mêmes. En quoi l'accessibilité, le publishing doit impacter le travail du développeur ? Moi, je vous dirais, ça se résume à une seule phrase. Laurent, est-ce que tu as vraiment le sentiment d'avoir développé un site accessible, XHTML, avec compatibilité W3C et tout compagnie ?
Absolument pas. Là, je vais prendre ma casquette en pratique. Je vais prendre ma casquette développeur. C'est celle que je connais le mieux. Et en fait, mon objectif dans l'accessibilité, dans cette accessibilité-là, c'était de respecter les templates qui étaient définis par le designer et l'équipe de développement au niveau des clients. En fait, on va regarder simplement, juste avant de montrer un petit peu mon travail, l'idée, c'est vous montrer un petit peu le code source de la page. Je vais revenir à une taille normal pour voir un petit peu tous les composants et surtout vous présenter la source de la page. Si on regarde l'intérieur de la page, on va chercher ville et on va retrouver tous les éléments un peu plus bas. On va y arriver. Et on va retrouver uniquement des divs, des UL et des LI. Descendre un peu plus et les seuls tableaux qu'on va retrouver correspondent aux tableaux des web parts. Donc finalement, au niveau du développement, ce que j'avais à faire, c'était simplement respecter le fait de reporter la maquette graphique dans mes développements. Si on travaille, si on continue à regarder un petit peu le menu, je vous présente juste ce menu-là, ici, qui va vous permettre de voir le travail que j'avais à faire. Uniquement répondre et faire des correspondances entre ma maquette du designer et le rendre dynamique avec les éléments correspondants. Rien de plus simple. Donc je dirais que, de mon point de vue, le travail que j'avais à faire, c'était vraiment communiquer avec le designer pour comprendre les besoins nécessaires pour l'accessibilité. Mais au niveau du développement, aucun impact n'était visible sur l'accessibilité.
Allô ? Oui, avec le son, c'est mieux. L'idée, c'est que le designer est capable de produire une maquette SharePoint, parce qu'il a été formé, il a la connaissance de ces techniques, et le développeur prend uniquement le backup de cette collection SharePoint et va implémenter les bonnes pratiques de déploiement, de features, collections, webparts, XSL et autres. Mais en aucun cas, il a accès à modifier le code HTML. Toutes les mises à jour qu'on a fait sur le site, que ce soit en pré-production ou en qualification, a été une simple relivraison des pages CSS. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de comité de pilotage qui nous a été douloureux. Je ne parle pas du travail du designer, mais pour nous, au niveau de l'organisation et de la gestion, ça, c'était des simples livraisons de feuilles de style. Et ça doit rester comme ça.
Oui.
Alors, deuxième problématique, le multilingue. Alors, en Suisse, bien sûr, tout le monde sait, nous parlons tous forcément français et suisse-allemand. Et on travaille trop régulièrement avec nos amis italiens. Et on a régulièrement des étrangers américains, anglais qui viennent. Donc, on doit pouvoir avoir un site dans plusieurs langues. Bon, si vous prenez nos voisins français, on ne parle que français difficilement. Mais bon. Comment gérer le multilinguisme dans SharePoint ? Typiquement, on va utiliser des moteurs de variation. Dans ce projet, on avait quelques problématiques à gérer. Première chose, le site ne devait pas être similaire. Tout sous-entendu, le site principal était en français, les versions allemandes, italiennes et autres avaient moins de contenu. Bon, ça, M. Plateau, vous pouvez l'expliquer mieux que moi, mais...
Oui, tout à fait. En fonction des ressources mises à disposition, il était impensable de pouvoir traduire l'entier du site. Donc, c'est seulement les pages principales, les pages relevantes qui devaient, elles, être traduites, et encore, en allemand, peut-être moyennement en anglais, etc.
Alors, attention, petite croyance qu'il faut tout de suite tuer. Quand on parle de multilinguisme, il ne faut pas croire que c'est uniquement la traduction des libellés. Ça, c'est valable en applicatif. Quand vous faites de la gestion de contenu, il faut pouvoir saisir aussi le sens. Si vous mettez un jet d'eau sur Suisse, on va penser à Genève. Pour des Américains, ils vont penser à un jet d'eau. Donc attention, le choix des images, le choix du texte, la façon de l'écrire, certains mots sont des faux amis. Vous ne pouvez pas faire des traductions automatiques. Merci Babelfish. D'ailleurs, merci Microsoft pour le MSDN. Les traductions sont très pratiques de temps en temps. Deuxième chose, dans la gestion du multilingue, il n'y a pas que le contenu, il y a aussi toute la structure et le moteur de recherche. Si vous êtes français, est-ce que vous aimez trouver des résultats en allemand ? Mais à l'inverse, c'est pareil. Donc il faut aussi gérer le multilingue, que ce soit au niveau du développement, de la structure et autres. Grand merci, les améliorations du moteur de variation de SharePoint du Medi sont répondues à tous nos problèmes. Tout a pu être fait en sortie de boîte. Toute l'approche que nous avons eue est simplement l'implémentation des solutions simples de SharePoint. On n'a développé aucune usine à gaz. Ni VapoCracker. Alors, quelques exemples simples. Première chose, on a pu profiter du nouveau mode on-demand de SharePoint 2010. Chaque fois qu'on publiait du contenu, on demandait si ce site devait être répliqué. Donc, à l'origine, le site a été mis en mode automatique. Tous les contenus principaux ont été créés. Et on a activé le mode on-demand. Et ensuite, M. Plateau et son équipe ne variaient uniquement les pages nécessaires.
Tout à fait.
Et simplement. Merci le ruban.
Oui.
Deuxième chose, en termes de développement et de contrôle, le fameux menu que vous voyez en haut à droite est une sorte de super favori multilingue. Comme le site n'a pas la même structure dans toutes les langues, ce n'est pas les mêmes références. Donc on a utilisé les mêmes concepts que SharePoint. Un modèle de liste a été installé et se déploie par racine de variation. Donc vous avez la même liste de paramétrage disponible dans toutes les langues. Un contrôle délégué inclus dans la master va simplement chercher la variation courante, récupère ce modèle de liste et en utilisation LingQ, tout simplement charger les libellés. Pour tout ce qui est paramétrage, tout est stocké dans des fichiers de langue. Pourquoi ? Parce que CRSX permet de traduire, que ce soit pour les pages XSL, que ce soit les pages WebPart, que ce soit les pages de contenu. Traduction, on a un seul livrable et des fichiers de ressources. Pour le moteur de recherche, certainement le meilleur feedback qu'on ait jamais eu, ou comme quoi trois cerveaux en valent mieux qu'un, il n'y a eu aucun développement de fait. Une page de moteur de recherche a été implémentée, les variations l'ont dupliqué dans toutes les variantes de langue. Ensuite, nous avons configuré trois scopes de recherche pour chaque langue, SHFR, SHEN, SHDE. Et ensuite, on a simplement modifié le contrôle de recherche pour lui dire d'utiliser les ressources de langue. Le plus simple, Laurent.
En action, on va retourner toujours sur notre site. Fermez ça. La meilleure façon de vous présenter les variations, finalement, c'est de vous montrer un petit peu la structure du site. Tout ça, en fait, déjà, on voit que sur ce site-là, on a trois variations. Une variation en français, FR, une variation en anglais, EN, et une variation en allemand, DE. c'est bon. Pardon, je vais vous présenter donc la structure. L'avantage des variations, c'est qu'en fait, on va pouvoir spécifier une variation source qui va se baser en l'occurrence sur la variation FR et qui va dupliquer le contenu et les sites, les zones, les sous-zones, dans les deux autres variations cibles. Attention, les variations ne prennent pas en compte les listes. Donc c'est un point important qui permet aux utilisateurs de définir si une liste doit être présente dans une autre variation ou non.
Seule la structure est répliquée.
Voilà. Donc les utilisateurs n'avaient finalement qu'à saisir dans la variation FR et le principe des variations permettait par la suite de répliquer le contenu, éventuellement oui ou non, suivant le choix de l'utilisateur, dans les variations suivantes. Une autre fonctionnalité intéressante que Renaud vient de vous présenter, c'est au niveau de l'édition de texte. Au passage, on voit qu'ici, je suis dans un site anonyme, on a la gestion du ruban qui permet finalement de ne pas afficher le ruban si on est en mode anonyme. Juste passer en mode connecté. Pour ça, on va se positionner sur une page.
Oh, une page de centre admin suffira, je pense.
Ouais. Hop. Sur la settings.
Voilà.
Bonjour Bill.
Alors évidemment, sur une production, on met des règles de registre de façon à empêcher l'accès aux pages formulaires d'admin. Donc c'est pas compliqué. Vous faites allocage complet, personne ne peut accéder au back-office SharePoint.
Donc maintenant, je vais pouvoir publier une page. Je vais me positionner sur une page de publication et je vais éditer du contenu. Pouvoir éditer tous les éléments qui m'intéressent, en particulier celle-ci. Voici
encore du contenu.
Du nouveau contenu. Je vais sauvegarder. Et grâce aux nouvelles fonctionnalités de 2010, on va avoir la possibilité de mettre à jour les variantes dans les autres variations cibles. Point important avec les variations sous SharePoint 2010, tous les jobs qui sont lancés pour la réplication des pages, des sites et éventuellement la création de nouvelles variations sont toutes stockées au niveau de la centrale admin.
Si vous préférez, une des évolutions la plus discrète mais qui rend crédible le moteur de variation est le fait que le système fonctionne avec des timer jobs. Avant, les variations dans SharePoint 2007 étaient gérées par le pool applicatif du site web. Si vous aviez un recyclage du site ou le site avait un souci, le moteur de traduction ne pouvait pas fonctionner. L'avantage maintenant des timer jobs, surtout qu'ils peuvent fonctionner en mode pause et résume, vous pouvez garantir que quand le job travaille, le site est varié à l'identique. Donc ce qui fait que même des sites qui vont avoir 5000 à 10 000 pages ou plus, vont avoir un moteur dédié, service sur un autre service sécurisé qui, lui, va s'occuper de faire le webmastering en toute sécurité avec le maximum de performance. Fini les pools applicatifs qui montaient au plafond chaque fois que vous devez publier une page. Moi, j'en ai des souvenirs.
Alors, Renaud, j'aimerais bien te présenter aussi ce qui nous a permis de mélanger nos trois cerveaux pour répondre aux différents scopes. Pour ça, je vais vous montrer au niveau...
Donc là, la plus belle des techniques, le moteur de recherche.
Voilà. Donc ce dont tu parlais, c'était la création des différents scopes au niveau de notre page, nos sites de recherche. Ici, je suis dans la centrale admin, au niveau du Search Service Application, et on a défini trois scopes qui vont répondre à différentes règles. Ça veut dire que les pages qui vont être crawlées, qui vont être renvoyées à l'utilisateur, vont toutes faire partie du /fr/de ou /en.
Limite, lance une recherche, je pense que c'est encore plus explicite.
On est d'accord. Comme on fait une session SharePoint, on va chercher
SharePoint.
SharePoint. Et là-dessus, si on regarde, je suis dans ma variation FR et tous les résultats sont sur FR.
Tout peut se paramétrer. Si vous connaissez bien l'outil, chacun de ces paramètres, vous avez vraiment moyen de l'adapter.
Je vais me mettre en anglais, je vais faire une recherche, on a moins de résultats et tous les résultats font partie de la variation EN.
Alors la question, c'est comment le contrôle est capable de changer son indice de langue ? Vous allez voir, c'est certainement le développement le plus long qu'on ait implémenté.
Rien de plus simple, toujours pas de code. À vrai dire, ça m'embête un petit peu, je suis un petit peu développeur et pas avoir de code, des fois
oui,
je m'ennuie.
On n'est pas dans l'applicatif, on est du publishing.
À faire avec. Je suis sur ma page d'édition, sur ma page de résultats en édition, et j'ai le paramétrage de ma web part de résultats dans laquelle je vais spécifier le scope en question. En l'occurrence, je suis dans ma variation en anglais, j'ajoute le scope VCH-EN. J'applique et les résultats sont automatiquement republiés.
Alors pour la partie développement, il y a comme eu du code.
Si, une petite partie du développement concerne...
Vois,
quand même. La partie contrôle. Ici, vous voyez, on a les contrôles FR, EN et DE. Ça, c'est une partie qui m'intéresse. C'est la partie coding. On a développé un petit user control. Alors, ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus au niveau du développement. Par contre, au niveau du fonctionnement, on va travailler toujours pareil avec le designer pour spécifier nos UL et nos LI, pour faire un rendu qui répond au design défini. Et par contre, mon repeater va se connecter à mon data source qui, lui, va automatiquement récupérer les variations, les autres variations.
La bonne nouvelle dans SharePoint 2010, c'est que pour le publishing, ça fonctionne comme un puzzle. Ou vous avez des contrôles graphiques que vous pouvez utiliser directement avec une charte graphique, ou si vous avez vraiment besoin de finesse, vous avez des contrôles de sources de données qui vont vous ramener uniquement ce que vous avez besoin pour implémenter que le rendu. On est vraiment dans la même logique qu'ASP.NET 2. Vous bindez.
Ah, et puis,
j'ai oublié le dernier point.
Ouais. Un petit dernier point, finalement, variations, le dernier. Le petit point intéressant, c'est au niveau de ma page d'accueil. Quand je lance une recherche, j'ai simplement lancé ma recherche, cliqué sur OK. Fonctionnalité intéressante. Justement, simple paramétrage, je suis au niveau de ma master et là-dedans, on a spécifié un content type dans lequel on a spécifié.
Un contrôle,
dans lequel on a rajouté une ressource, comme Renaud vous l'expliquait, dans lesquelles on a stocké la page de résultats. Si je me positionne sur mon projet master, on voit qu'on a quatre ressources dans lesquelles on a spécifié la valeur de résultat.
Donc, en pratique, on n'a rien codé, on a juste implémenté les objets SharePoint. Le design les a implémentés, on a utilisé simplement les fichiers de ressources pour pouvoir adapter au mieux ce qu'on devait présenter dans la langue. Donc, oui, on aurait pu développer un contrôle de recherche qui implémentait le moteur de variation pour savoir où je me trouve, qui ferait des requêtes restreintes de recherche. Ça aurait été un budget de 5 à 10 jours en fonction des spécificités. Ou tout simplement, passer une demi-heure à paramétrer SharePoint. Je le dis devant mon client, hein.
Le choix
il ne découvre pas la facturation, je vous rassure. Alors, maintenant, quelque chose pour faire plaisir quand même à mon développeur. On va quand même parler d'architecture technique. Parce qu'à m'écouter, c'est que du design, c'est que du paramétrage. Il y a eu du développement et il y en a eu beaucoup. Dans les termes réservés, dans les temps impartis. Voici le retour d'expérience qu'on a sur l'architecture technique. Donc, première chose, tout est question d'approche. Tous ceux qui travaillent avec moi savent, je fonctionne beaucoup par méthode. J'applique des démarches, j'applique des méthodos. C'est mon passif qualité. Première chose, dans du publishing, on a utilisé une approche toute SharePoint 2010. On a proscrit, évité de faire du développement pour le principe. Donc ça a frustré mon développeur. C'est pas grave. On a utilisé .NET uniquement pour étendre SharePoint. Jamais on a utilisé .NET pour coder une fonctionnalité. On utilisait le moteur SharePoint. On travaillait avec des licences, avec des produits ERP qui sont pensés pour nous aider. Autant en profiter. Et typiquement, ça a été des bons choix. Suivez ce principe très simple. Quand c'est simple à expliquer, c'est simple à coder, c'est simple à maintenir, c'est simple à déployer. L'inverse est absolument vrai. Si vous avez déjà du mal à comprendre la solution, n'espérez même pas que ce soit facile à déployer et à maintenir. Pensez simple et pensez réutilisable. Pour ça, première chose dans le projet, nous avons eu une approche entièrement orientée publishing. J'ai beau venir du monde du développement et de l'intranet applicatif et de la GED, j'ai su m'adapter depuis 3-4 ans au monde du publishing. Donc typiquement, travailler par rapport à des histoires graphiques. Je travaille avec du storyboard. Pour ça, les profils designers aident énormément. Ce sont eux qui vont vous permettre de factoriser vos contenus, qui vont permettre de diversifier votre mise en page, qui vont être force de proposition à l'affichage sur le style des menus. Je peux vous dire, j'ai des designers assez fous. J'ai un client qui m'a dit pourquoi je n'ai pas un iPod comme menu de navigation. Pas grave, eh ben on l'a fait. Par contre, au niveau du développement, c'était que des UL et des LI. On peut trouver de tout. Pour notre conception, on a surutilisé et abusé tout ce qui est user control et content query web part. Les web parts n'ont été utilisés qu'à leur simple but, sous-entendu être des applications réelles. Deux parties du site étaient des vraies applications, un principe de recherche d'agenda et de compte rendu, avec des tris, des ordonnancements bien précis, deux lots de web parts ont été développés uniquement pour ces deux types de pages beaucoup plus applicatives. Mais le reste du site a été pensé en publishing et en agrégation. Petite remarque, en termes d'agrégation, si la content query web part ne suffit pas, on a travaillé exclusivement en XSL, XHTML. Pourquoi ? L'avantage, c'est qu'on pouvait mettre à jour notre interface sans jamais recoder, redéployer. On a un répertoire qui contient toutes nos feuilles de style XSL. En les mettant à jour, on met à jour tous les rendus graphiques du site. Le principe est très simple. Si vous n'avez pas besoin de postback, de boutons d'interaction, faites-le en XML XSL. N'utilisez pas des moteurs ASP.NET si ce n'est que faire du rendu statique. En plus, on peut utiliser du cache. Donc, c'est que du bonheur. Dernier point, n'oubliez jamais qu'un site internet est aussi anonyme. Il faut pouvoir prévoir que les gens ne voient pas le ruban ou que certains contrôles ne s'affichent pas. Bah, là-dessus, tu peux juste montrer l'accueil pour le découper.
Voilà, on va juste vous montrer les différents layouts, comme l'a présenté Renaud. Pardon. Je vais vous le présenter moi. On a la possibilité donc de pouvoir modifier à chaud les différents gabarits qui sont disponibles. En l'occurrence, ici, on en a proposé quelques-uns qui sont groupés en fonction du content type. Et derrière, notre page d'accueil, si on prend notre page d'accueil qui, elle, a un gabarit particulier, regroupe différents contrôles, content query web part ou web part, en fonction du besoin, de l'agrégation sur une seule liste, l'agrégation sur plusieurs listes. Typiquement, le menu news, lui, était une agrégation de deux listes. Pardon. Donc, on est parti sur une XSL part.
Pour info, quand je parle de développement avec la content query web part, ce n'est uniquement du développement de pages XSL. En l'occurrence, la web part jaune, verte et bleue, c'est une seule feuille de style sous trois modèles. Et le simple paramétrage permet de l'adapter. L'avantage, c'est que si demain d'autres rubriques doivent être créées, on peut réutiliser ces pages de style. Il n'y a pas de code. Le seul code utilisé, c'est pour la web part des news, parce qu'on doit faire des requêtes croisées sur deux listes séparées en fonction de contraintes. Et surtout, on devait respecter des alignements par rapport aux autres composants qui étaient très précis, de l'ordre d'un tiers, deux tiers en permanence. Donc là, on a préféré voir un contrôle de rendu personnel et on utilise encore de l'XSL. On limite l'utilisation des web parts parce qu'en plus, ça charge des différents moteurs que n'utilise pas la content query. Alors, est-ce qu'il y a quelques développeurs dans la salle, quand même ? Rassurez-moi. Est-ce que vous aimez développer ? Oui. Est-ce que vous aimez développer sous SharePoint ? Non. Ah si, il y en a un, quand même, ça me sauve. Alors, pour bien développer sous SharePoint, bien, il est intéressant d'avoir un bon jeu d'outils. Clairement, depuis, j'ai commencé à travailler sur SharePoint 2001, donc j'ai vécu le zéro outil. Maintenant, j'en ai trop. Le meilleur des outils reste avant tout Visual Studio 2010, merci Microsoft, et d'avoir enfin intégré, après à peu près une dizaine d'années, une couche SharePoint. Par contre, si vous voulez encore plus loin, plus vite, je ne saurais trop vous conseiller d'installer la CKS Toolbar. Alors le CKS, c'est quoi ? Donc vous avez dû le repérer, je suis flagué comme un poulet, je suis MVP. On est une communauté à peu près de 100-141 des MVP dans le monde sur SharePoint et on a créé un effort communautaire de pouvoir unifier tous les efforts d'outils de développement SharePoint dans un seul projet, packagé, qui permet d'intégrer directement dans Visual Studio plein d'outils complémentaires au développement SharePoint. Alors, ils ne sont pas indispensables, mais je crois que je ne pourrais plus jamais les enlever.
Si, ils sont indispensables.
Bon, d'accord, ils sont indispensables. Bon, d'habitude, les développeurs, ils veulent voir du code. Donc, écoute, Laurent, montre en quoi c'est pratique.
On est d'accord. Je préfère mettre ma casquette de développeur. Donc, je vais vous présenter, justement, le côté développement avec CKS Dev. J'ai préparé une petite solution pratiquement vide. Elle contient uniquement deux modules.
Alors, le scénario est toujours le même. Je fais du publishing, j'ai besoin de pages et de content type. Quoi que je fasse, on va toujours commencer par ça.
Au niveau des tools, on peut juste vérifier que tous les tools sont présents. En l'occurrence, les CKS Dev et les SharePoint Power Tools, que vous verrez peut-être un peu plus tard dans d'autres sessions. On va partir du postulat qu'on va se baser sur des content types qui ont déjà été créés dans mon environnement. Je vais me connecter à un de mes SharePoint, une de mes web apps, et à l'intérieur, je vais aller rechercher le content type correspondant. Pour ceux qui ont fait un petit peu de développement sous 2007, on était obligé de créer tous les content types manuellement, connaître l'XML, etc. Ici, CKS Dev va me permettre d'ajouter deux fonctionnalités supplémentaires quand je fais un clic droit. C'est la possibilité de créer un page layout, qu'on va voir tout de suite après, et surtout l'import du content type.
Génère-nous vite le content type et le layout. Ça, je pense que ça parlera d'office.
Je viens de créer mon content type, il m'a rajouté un module avec les ID correspondants, les fields supplémentaires. En l'occurrence, je vois que j'ai deux fields spécifiques à ce content type, en plus des champs héritants du parent. Et je vais juste les rajouter à mon projet. Même façon, j'étends mes champs, je sélectionne mon champ et j'importe le champ.
Tu peux générer le layout pour voir ? Ça, j'adore.
Pas de problème. Je reviens sur mon content type. Je crée mon page layout. Derrière, il me le rajoute dans un répertoire temporaire. Il ne me reste plus qu'à copier tout le contenu de ma page dans mon module, de sauvegarder, et je peux pratiquement déployer automatiquement. Ce qui va me rester à modifier, ça va être mes elements.xml, merci les snippets qui me permettent d'ajouter le contenu et de changer éventuellement les guides.
Traduction, la seule chose qu'on aura à faire pour finaliser le content type, c'est prendre le gabarit HTML de nos designers. Pour peu que vous faites des macros, vous n'avez quasiment pas à coder. Pareil, pour finir les tests, n'oubliez pas d'utiliser des outils comme Super Preview de Blend, qui vous permet de pouvoir visualiser votre contenu dans différents types de navigateurs, les exporter sous Photoshop pour vérifier que tout est similaire. Très pratique quand on a des comités de pilotage très graphiques d'ailleurs. Enfin, petit retour rapide, on n'a plus que 2 minutes, donc on va finir comme ça. LingQ, est-ce qu'il faut utiliser LingQ ou Camel ? Personnellement, en tant que développeur, je vous dirais LingQ, c'est génial. Mais attention, ce n'est pas incontournable tout le temps. Si vous développez du client OM, si vous avez des solutions extrêmement customisables et paramétrables, le Camel peut être une alternative toujours intéressante. 2 conseils. Si vous prévoyez d'utiliser LingQ dans vos projets SharePoint, prévoyez toujours de gérer les instances et les modèles de liste dans votre composant. Comme ça, quand vous déclarez votre feature, vous avez les listes de paramétrages qui sont déjà instanciées et vos composants déjà bindés. 2e chose, le Camel n'est pas trop compliqué, c'est pas l'affreux. L'avantage, c'est que si certains des composants que vous développez, vous avez une vision de les étendre en Ajax, en Silverlight ou autre, le client object model n'utilise pas LingQ, il ne sait pas utiliser, c'est des couches serveurs de compilation. Donc si vous avez préparé votre code entièrement en Camel, le jour où vous devez migrer sur une plateforme ARIA, vous copiez-collez vos requêtes Camel, vous les réutilisez. Limite, vous pouvez le redévelopper en une après-midi pour peu que vous ayez des développeurs Ajax. Search Engine Optimization, SEO. Alors ça, j'adore. Qui a déjà fait du SEO ? C'est drôle, hein ? Alors le SEO, c'est quoi ? C'est client du client du client. Un client, M. Platon en l'occurrence, devait avoir un site web accessible, mais surtout indexable par Internet. Bing, Google et d'autres. Je vais choisir votre préféré. Maintenant, le souci là, c'est que je ne peux rien faire pour influencer Microsoft ou Google pour mieux indexer notre site. Vous devez suivre un long process d'optimisation. Ne faites pas confiance à des sociétés spécialisées dans le référencement. Elles sont dépendantes, comme tout le monde, des mêmes règles. Et elles seront obligées de mettre les doigts dans votre système. Les règles sont simples. 1. Vous devez avoir une structure de site très lisible. Essayez d'éviter des navigations profondes. Monsieur Plateau a insisté sur le projet pour que tout se navigue en 3 clics. Donc évitez les profondeurs de 8 niveaux de site. Enfin, quand fonctionnellement c'est possible. Autre point. Les titres et méta sont importants. N'oubliez pas de remplir les langages et descriptions des robots. Vous devez générer des fichiers sitemap et robots à jour. Prévoyez d'utiliser du PowerShell et des outils de génération de façon à pouvoir uploader régulièrement sur les moteurs de recherche les mises à jour de navigation. Vous allez voir des fois dans Google, quand vous tapez adresse d'un site, vous avez plein de sous-liens qui apparaissent pour faire la navigation croisée. Ça n'apparaît pas par magie. Attention aux redirections. SharePoint fait du 302 temporaire. Il est plus pertinent d'avoir du 301 permanent. 2. Menu navigation. Proscrivez tant que vous pouvez tous les menus en Flash, en JavaScript, en Silverlight. Toutes les technologies ARIA sont sympathiques, sauf qu'elles ne sont pas lisibles. Que ce soit en accessibilité ou en SEO, un moteur de recherche, imaginez un enfant avec des grandes lunettes, il ne sait pas faire autre chose que de lire du texte. Donc vous pouvez très bien avoir des menus cachés qui n'existent que pour faciliter la navigation d'un moteur de recherche. N'oubliez pas le cache. Plus votre site répond vite, mieux il est indexé, plus il est crédible. N'oubliez pas d'expliquer tous les objets. C'est valable en SEO, c'est valable en accessibilité. Pour que le site soit mieux indexable, toutes les images, tous les liens, toutes les images, tout doit être décoré avec du texte, tout doit être décrit. Ça, par contre, vos utilisateurs apprécient beaucoup moins parce que c'est du travail de pouvoir faire une description de chaque chose qu'on affiche. Conclusion, vous devez absolument lire et respecter tous les outils des moteurs de recherche. Vous ne pouvez pas faire sans. Si vous faites un site internet qui est mal indexé, qui ne remonte pas dans les écrans de recherche, vous n'avez pas vraiment de solution. Vous devez respecter ça. On va finir avec une démo de 30 secondes, promis, et je me tais. Voici quelques liens pour vous aider pour améliorer l'indexation de votre site. Un lien dédié à SharePoint, mais surtout le IS SEO Toolkit qui permet de faire une revue de votre site sur ces concepts-là. Et un outil gratuit, génial de Microsoft, l'URL Rewrite 2.0. qui va vous permettre de modifier l'input, l'output de votre site IS pour arriver à remodeler SharePoint à votre aise. Bon, ça, vous pouvez me croire. Bon, Laurent, tu fais la dernière démo.
Rapidement,
tu as littéralement 1 minute 15.
Je ne suis pas dans SharePoint. C'est une contrainte qui est au niveau de l'IS. Donc, du coup, j'ai simplement ouvert mon IS au niveau de ma web app. Et là, j'ai spécifié différentes règles. En particulier, on va regarder éventuellement la première qui va me rediriger en fonction de l'adresse du site vers un lien permanent. Si je teste directement, ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir tester va pouvoir saisir une adresse plus simple et plus rapide à lire, et surtout avoir une redirection automatique. Si j'appuie sur Entrée, je lance Firebug. J'ai quelques petites erreurs, mais c'est pas grave.
Réseau.
Merci. Et on voit bien qu'on a des redirections automatiques vers le lien vers du 301 avec une réécriture de l'URL automatique.
Donc on demande simplement à IS de mieux gérer les sorties HTML. On a d'autres exemples. Tu peux montrer la règle des pages ou pas? Tu l'as ou pas?
Non, je ne l'ai pas ici.
D'accord, désolé. Alors, vous avez plein de règles qui existent, dont une des règles sympathiques est de pouvoir enlever dans les adresses le mot page. Vous savez, page, slash, quelque chose. Vous pouvez réécrire de façon que dans votre plan de navigation, dans votre sitemap, vous mettez des adresses très courtes qui, au niveau de SharePoint, sont réalisées par IS pour être réécrites avec Pages. Ce qui fait que les URL sont plus simples à indexer, mieux à rechercher. Voilà, on a fini ce retour d'expérience. Désolé si on a un peu accéléré, on avait vraiment beaucoup de contenu. Si vous avez des questions de réponse, on est là, n'hésitez pas.